Et nous, ça nous amène à parler de notre autre sujet ce matin, un sujet qui est fort important et très à propos à ce temps-ci de l'année, parce qu'on voyage. Quand on est une personne en situation d'handicap, que ce soit un handicap visuel ou autre, on a souvent accès ou on a souvent besoin d'aide. Et on voit ça souvent des gens avec ce qu'on appelle des chiens guides, c'est plus pour les personnes en situation d'handicap visuel, ou des chiens d'accompagnement, ou des chiens qui vous aident, qui vous assistent dans plusieurs domaines. On va en discuter. Il y a plusieurs façons que ces chiens-là peuvent vous aider. Pour en discuter, donc, je reçois le directeur général de la Fondation Mira, Nicolas Saint-Pierre, qui est au téléphone. Bonjour, Monsieur Saint-Pierre.
Bonjour, comment ça va?
Ça va bien, ça va bien. Donc, ma première question, parce que c'est un petit peu ce qui a motivé cette demande d'entrevue. Il y a jusqu'à tout récemment, il y avait cette rumeur que, il y avait une annonce que le gouvernement américain allait changer les règlements, les normes et la paperasserie à faire quand on traverse la frontière avec un animal domestique. Évidemment, un chien, même si c'est un chien guide ou un chien d'assistance, c'est un animal domestique. Et on avait bien peur que ça cause des problèmes. Ça a été changé, ça, hein?
Oui, ils se sont aperçus que c'était trop compliqué d'installer cette réglementation-là. En fait, personne n'était prêt. Les vétérinaires du côté américain n'étaient même pas prêts quand ils ont reçu la demande des nouveaux règlements. Puis même au Canada, on a été bien surpris de ça. Donc, mais ça touchait vraiment les animaux de compagnie, là, pas les chiens d'assistance.
Ah, ça touchait pas les chiens d'assistance, ok, j'aurais cru
non,
que oui.
Okay. Non, c'est ça. C'est comme ça touchait vraiment les animaux de compagnie, mais ça reste quand même que... Depuis la COVID, il y a eu beaucoup de gens qui se sont déplacés avec des chiens, puis ça allait rondement, l'importation des chiens, tout ça. Puis je pense que c'est pour ça qu'ils ont voulu réglementer, puis je comprends, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de mouvements d'animaux à travers la frontière américaine-canadienne, c'est clair. Là.
Oui, c'était pour contrer la propagation de la rage, mais au Canada, c'est quand même contrôlé. C'est pas comme d'autres pays du monde, mais en tout cas, ça sera à eux de régler ça. Mais retournons donc, ça nous a ouvert quand même les yeux à savoir, quand on voyage avec un chien d'assistance ou un chien guide, c'est quoi les défis que ça peut causer à ces personnes?
En fait, les défis, bon, évidemment, c'est sûr que c'est un petit peu plus de planification. Il faut que vos carnets de santé soient à jour. Il faut que les vaccins soient à jour. Ça, c'est évident. Donc, ça, c'est vraiment le gros truc qu'il faut absolument être certain. Quand tu as un chien d'assistance d'une école de chien guide ou de chien d'assistance à la mobilité ou même pour les TSA, c'est vraiment d'avoir une carte comme quoi que ce chien-là vraiment, il a été entraîné dans une école qui a été reconnue, certifiée par une fédération. Souvent, les autorités, les douaniers, tout ça, c'est ça qui les rassure le plus. Puis, avec ça, ça passe comme rien.
Maintenant, il y a quand même, les défis ne sont pas seulement qu'à la frontière, il y en a un peu partout. Pensons quand on doit prendre un moyen de transport, genre un avion, un train, un autobus. Comment on se prépare à ça?
C'est un peu la même chose. Il faut avertir la compagnie aérienne qu'on s'en vient avec un chien d'assistance pour qu'il soit prêt à notre arrivée. Tu peux pas arriver juste au comptoir, puis déjà un chien, puis t'as rien préparé à ton voyage. Évidemment, souvent, quand tu annonces que tu as un chien, ben souvent, ce qui arrive, c'est qu'il nous place dans un endroit dans l'avion qui est adéquat pour le chien. Là, souvent, c'est une place où est-ce qu'il n'y a pas de banc en avant. Donc, les chiens ont de l'espace en masse pour se coucher, puis ils sont bien. Pour les vols internationaux, en tout cas, les vols long cours. Puis, sinon, mais après ça, c'est un peu la même chose. Il faut que les carnets de santé soient en ordre, tout à jour, les vaccins à jour. Puis, si tout ça est bien, puis vous avez votre preuve comme quoi que votre chien vient d'une école certifiée, ben normalement, il n'y a vraiment pas de problème. Il faut juste les prévenir. Il faut juste prévenir la compagnie aérienne. Les autobus, on n'a pas vraiment besoin de les prévenir. On leur dit au comptoir.
Oui.
Mais autobus-train, normalement, c'est très facile. Il n'y a pas de problème. C'est plus les avions qu'il faut se préparer.
Maintenant, moi, j'ai un chien qui n'est pas un chien d'assistance, mais c'est un chien, un animal domestique. Et puis, moi, je sais, quand je voyage avec lui, il faut que je pense qu'il n'y a pas la vessie aussi grande que la mienne. Et qui a besoin, oui, à un moment donné, de se libérer.
Ah, ben là, ça, c'est certain. Les besoins des chiens, il faut être absolument certain que les besoins ont été faits avant. Comme un chien personnel, souvent, bon, ils travaillent, ils sont dans des cages de transport, puis ils voyagent dans une cage de transport. Fait que souvent, ils passent plus que... Ben, ça dépend du vol, évidemment, mais tu sais, bon, si on part pour plusieurs heures, il faut que ton chien soit certain qu'il a bu en masse de l'eau, qu'il a fait pipi après, qu'il n'aura pas trop soif, puis après ça, ben, qui va être capable de passer la durée du voyage. Là.
Puis un chien d'assistance, par contre, lui ne sera pas obligé d'être dans une cage. Moi, le mien doit aller dans un... C'est un petit chien, il va dans un sac de transport en dessous du siège, puis tout va bien. Mais les gros chiens, les chiens d'assistance, c'est des chiens quand même assez volumineux.
Oui.
Donc, il faut vraiment s'assurer qu'il soit confortable et qu'il...
Oui, absolument. Il faut que les besoins soient faits, tout ça, qu'il ait mangé, qu'il y ait bu de l'eau, tout est comme bien fait. Puis c'est surtout qu'il n'y a pas envie de pipi durant le vol. Là. Ça, c'est pas super parce que nos chiens, ils pèsent tout en haut. Nos plus petits chiens pèsent peut-être 65 livres, puis ça va jusqu'à 95 livres, fait que 105 livres même. Donc, ces chiens-là qui sont dans l'avion, il faut absolument que, comme toute la business est faite avant, puis après ça, ben ça se passe très bien normalement.
Maintenant, lorsqu'on a un chien d'assistance, on va aller au restaurant, on va aller dans un hôtel. Est-ce qu'on peut refuser l'accès à un animal d'assistance dans ces circonstances-là? Mais on l'a vu, mais je pense pas que c'est légal de faire ça.
Non. Normalement, les chiens d'assistance sont reconnus comme une aide technique essentielle à la personne pour pallier l'handicap. Donc, il n'y a aucun endroit public que tu peux refuser un handicapé avec son chien. Peu importe, je pense que la seule place au Canada qui ont vraiment le droit de pas avoir un chien avec eux, c'est dans une salle de chirurgie, ce qui est très compréhensible. Donc, le reste, les chiens peuvent accompagner les clients, les bénéficiaires, partout, n'importe où. Il n'y a aucune restriction.
De toute façon, ce sont des chiens tellement calmes. Quand je les vois, c'est pas des chiens... ils sont pas excités.
Ce n'est pas du tout comme le mien.
Non,
c'est ça. T'sais, mais il faut pas avoir un... Écoute, nos chiens qui travaillent, ils ont quand même, c'est quand même... Il faut qu'il y ait un tempérament de base qui soit calme. Il faut qu'il soit quand même vaillant comme chien. Il faut qu'il travaille quand même. Mm-hmm. C'est pas juste se promener. Fait que quand ils se promènent, c'est sûr qu'ils ont quelques codes qui fait que faut qu'ils apprennent à bien se comporter en public et tout ça. Mmh. Donc ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, bien évidemment, le fond du comportement de nos chiens, il faut que ce soit des chiens qui sont fondamentalement très calmes et très gentils pour être capables de suivre le rythme de vie des personnes avec qui ils sont là.
Alors, on a établi, on ne peut pas, à moins de circonstances telles un bloc opératoire, d'avoir son chien avec soi. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on se retrouve dans une situation où un commerçant nous refuse l'accès parce qu'on a un chien guide ou un chien d'assistance?
Bien, premièrement, écoute, c'est sûr que nous, avec le temps, on a eu plein d'histoires qui se sont passées. Il y a des gens qui ont fait des plaintes aux normes des droits de la personne. Puis bon, ça, c'est absolument nécessaire. Je pense que c'est ça. Le problème qu'on a avec ça, c'est que c'est un processus qui est vraiment long. C'est vraiment dur. Fait que le premier truc que moi, je dis à toutes les personnes qui viennent chercher des chiens chez nous, on leur dit de rester calme, rester poli.
Ouais.
Faut pas commencer à monter dans les rideaux. Ça, c'est la première chose, parce que ça part vraiment mal. Souvent, bon, les gens qui font de la demi-acceptance, bon, dans un restaurant, ils te mettent dans une place dans le fond parce qu'ils ont peur que votre chien dérange puis tout ça. Fait que ça, les gens, souvent, ils signalent comme quoi qu'on le sait que tu es en train de me mettre dans une place que tu penses que mon chien va déranger. Puis après ça, ben si vraiment il y a un refus puis c'est vraiment pas, il y a aucune coopération, ben là, on appelle la police. C'est une plainte. Puis ils vont prendre votre plainte. Puis après ça, ça va suivre son cours. On a plein de jurisprudence comme quoi que le chien, il y a d'affaires dans le restaurant. Puis les gens qui sont fautifs payent des amendes. Mais c'est un processus qui est long et ardu. Ça, je dois vraiment le mentionner.
Idéalement, on aimerait mieux que ça soit pas là. Même chose pour les appartements aussi. On peut pas refuser un appartement à quelqu'un qui a un chien guide ou un chien d'assistance.
Non, absolument. Absolument. Tu peux pas. C'est comme un aide qui est vraiment essentiel puis qui est reconnu par la loi au Canada. Donc, c'est ça.
Je sais que pour vous, de vous impliquer auprès de la Fondation Mira, c'est un engagement personnel parce que je crois que votre père a eu une expérience là-dessus.
Ben, mon père, en fait, c'est le fondateur. Mes parents ont fondé la Fondation Mira, donc moi, j'ai grandi dans cet environnement-là toute ma vie. Donc, c'est une entreprise familiale. On a commencé on était la première école de chiens guides francophone en Amérique du Nord. Après ça, ben on est tombé la première école de chiens guides au Canada. Après ça, ben tranquillement, il y a d'autres écoles de chiens guides qui ont vu le jour avec le Club Lyon, puis il y a d'autres organisations aussi qui ont fondé des écoles. Mais en même temps, ben écoute, ça fait 40, presque 45 ans aujourd'hui. Wow. Moi, j'ai 48 ans. Fait que j'ai vraiment littéralement grandi à travers l'organisation. Puis ça fait 8 ans maintenant que j'ai pris la tête de l'organisation. Puis c'est un honneur pour moi de continuer à travailler puis de pouvoir donner un coup de main aux gens qui ont besoin des chiens. Puis on essaie de d'entraîner, de donner les meilleurs chiens possibles avec la meilleure connaissance qu'on a. On a plein de professionnels qui sont chez Mira maintenant. Donc, je pense qu'on a un super service. On est très très orienté vers les personnes qui viennent chercher les chiens. Puis on veut vraiment que les chiens fassent une différence dans leur vie. C'est un don, hein, c'est donné. Tout est gratuit. Fait que ça, c'est important de le mentionner. Mira.
C'est gratuit. C'est gratuit, mais on sait que ça peut coûter jusqu'à 35 000 $ je pense, pour.
Oui, mais en les entraîner et les donner, absolument. C'est quand même un coût, là, produire ces chiens-là. Donc, c'est ça. Mais nous, les services sont complètement gratuits tout le long de la vie du chien pendant qu'il travaille.
C'est vraiment généreux et c'est surtout tellement un service incroyable. Juste pour la petite histoire, ici, avec Analem, nous avons des employés qui sont en situation d'handicap. Je pense que c'est un chien d'assistance, puis c'est une personne en fauteuil roulant. Et c'est extraordinaire de voir le chien ramasser les choses. Puis je me dis, mais comment est-ce qu'il a fait pour apprendre? Puis je me dis, bien, regarde, le chien, on peut le dresser. S'il a le bon tempérament, puis tout va bien, on peut le dresser.
Ah, absolument. Puis je veux dire, les chiens, ils veulent nous faire plaisir. Hein? Tu sais, ouais. Les chiens, même, j'imagine, même avec ton petit chien à toi, tu le vois, ton chien, il n'y a pas juste le goût juste d'aller manger puis d'aller se coucher sur le fauteuil. Il a le goût de te faire plaisir, il a le goût de jouer avec toi. Fait que, tu sais, à un moment donné, il y a des tempéraments qui fait qu'on utilise leur force naturelle comme n'importe quoi dans la vie. Puis on les amène à leur apprendre à faire un travail. Puis que après ça, quand on les donne aux gens, mais pour eux autres, c'est pas une job, c'est du plaisir, c'est une façon de travailler, d'être avec quelqu'un. Puis après ça, ben comme vous pouvez sûrement voir avec la personne qui travaille chez vous, les chiens sont heureux, là, ça va bien.
Ah oui, non, ça paraît. Puis moi, je termine là-dessus, mais le dernier commentaire qu'on doit dire, c'est que quand vous voyez un chien d'assistance, ce n'est pas un chien à aller flatter, c'est un chien qui travaille, laissez-le faire son boulot.
Non, puis vous le savez pourquoi. Hein? Ça, je vais l'expliquer, je vais prendre quand même la petite seconde de plus. Nous, on veut pas que les gens flattent les chiens parce que les chiens, c'est nos chiens qu'on entraîne, puis tous les chiens d'assistance en général, c'est des chiens qui sont fondamentalement gentils et amoureux des humains. Puis les chiens, mais ils ont le goût de se faire flatter dans la vie. Fait que s'ils sont flattés par tout le monde, ils vont avoir plus le goût de se faire flatter que de travailler. Donc ça, c'est juste pour ça, pour que les chiens restent concentrés puis qu'ils n'ont pas le goût d'aller partout. Parce qu'on peut imaginer quelqu'un qui ne voit pas, qui se promène puis que son chien est toujours déconcentré, puis que lui, il ne sait pas exactement pourquoi que son chien est tout le temps déconcentré. Ça vient bien ardu pour se déplacer. Puis ça l'empêche l'efficacité, l'aisance, la sécurité pour que les gens se déplacent avec leur chien calmement puis dans la plénitude, là.
Bien, Nicolas Saint-Pierre, directeur général de la Fondation Mira, merci d'avoir été avec nous ce matin.
Ça me fait plaisir, l'invitation. Merci beaucoup.
OK, au revoir.
Au revoir.